tellement important pour nous, hein, qui sommes croyants, qui avons donné notre vie au Seigneur, parce que la mort n'a pu retenir notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, c'est le thème, il est vivant et ça change tout. Alors on va le développer ensemble et on va voir que le Seigneur, voilà, c'est tellement important parce que quand nous traversons, vous allez vite le remarquer, quand on traverse des moments difficiles, bien, assez rapidement va venir dans nos cœurs cette sensation de se sentir abandonné. Et des fois, on va regarder au fond de notre cœur, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et on regarde pour voir. Et ça, c'est en fait l'esprit humain, le monde qui nous enseigne cela. Une chose à savoir, c'est tellement important, notre position en Christ, celle que nous avons auprès du Seigneur. Tout à l'heure, pendant l'introduction de la Sainte Cène, on disait que voilà, on a un privilège immense, nous, le peuple de la grâce. Nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu quand nous le souhaitons, autant de fois que nous le désirons. Et si on peut rentrer dans la présence de Dieu, c'est parce que la voie nous a été ouverte par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il dit, mais en fait, que personne ne se prive de rentrer dans cette présence, parce que nous-mêmes, on peut se priver nous-mêmes, souvent en se flagellant, ou alors avec un esprit de supériorité. Mais ce matin, que nous puissions avoir cet esprit vraiment de reconnaissance en disant, Seigneur, je ne mérite pas tout ça. Mais une chose est certaine, c'est que tu me l'as donné. Alors je veux profiter. On l'a expérimenté. On serait nombreux ce matin à venir ici, derrière ce micro, et dire, à un moment donné, j'étais pas bien. Je traversais une situation difficile dans ma vie. Et puis, j'ai résolu dans mon cœur de m'approcher de Dieu. Et dans sa présence, alors que je n'ai même pas eu le temps d'exprimer ce qu'il y avait dans mon cœur et d'exprimer au Seigneur la situation, il est intervenu. Ça, c'est le miraculeux du Seigneur, de sa présence, que personne ne se prive de sa présence. Alors, dans ce week-end de Pâques et non pas de Pentecôte, donc on veut se focaliser sur la signification de cette Pâques. Alors la Pâques, c'est celle que, enfin ce week-end, c'est Pâques avec un S, à ne pas confondre avec la Pâques sans S. On sait que la Pâques sans S, ça a été lors de la libération du peuple juif, alors qu'ils étaient en captivité dans la nuit, où il va y avoir cette délivrance. Et comme protection, il fallait qu'un agneau soit sacrifié avec le sang. On mettait ce sang donc sous les linteaux de chaque maison, et la maison était protégée. Quelle belle image pour nous. Que ce qui va nous protéger finalement de tout, c'est d'être recouvert par le sacrifice de l'agneau parfait. Cet agneau qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ne pas confondre la Pâque. Alors, j'aurais pu vous poser cette question. J'aurais même pu envoyer un sondage. C'est quoi pour vous la Pâque ? Chacun peut se poser la question. Moi, j'aimerais vous dire que la Pâque, d'emblée, je réponds moi à la question, c'est bien plus que des œufs à découvrir, bien plus que du chocolat, bien plus qu'un jour férié, demain. C'est bien plus que tout ça, lors de sa signification. La Pâque, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et ça, c'est un événement tellement important, parce que si Jésus était allé simplement à la croix, donner sa vie, et qu'en fait, il ne serait pas ressuscité, ça aurait été tellement dramatique et triste pour nous, et nous serions encore aujourd'hui sans solution. Mais il est ressuscité. Il y a le passage qui dit « comme il l'avait dit ». Parce qu'il a toujours annoncé, finalement, c'est pour cela qu'il a quitté son ciel de gloire et qu'il est venu sur cette terre. Alors oui, Jésus est vivant. Et ça va nous encourager. On va lire un premier texte qui se trouve dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens 15, les premiers versets. Ici, l'apôtre Paul, il est en train, pour situer un peu le contexte, il est en train de dire aux Corinthiens, de leur rappeler la résurrection de Christ et ce que cela peut impacter dans leur vie. C'est ça. Et il leur rappelle tout ça. Il dit, mais je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, et ça s'arrête là, dramatique, hein, mais qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après de tous, il m'est apparu à moi comme à l'avorton. Amen. On va arrêter là la lecture. Ici, donc, l'apôtre Paul était en train de rappeler aux Corinthiens, parce qu'on peut avoir cette tendance d'oublier que Christ est ressuscité. Un jour, je ne sais pas si vous connaissez un peu cette histoire, cette image où quelqu'un n'était pas conscient de la présence du Seigneur Jésus dans les moments de culte personnel. Et un jour, quelqu'un il dit, mais tu sais, pour présenter et pour vraiment ouvrir les yeux, que quand tu pries, le Seigneur est là, prends une chaise vide, et considère que Jésus est assis sur cette chaise et que tu es en train de lui parler. Et on va voir rapidement que quand on fait ça, les choses banales, futiles, elles passent au second, troisième plan. Et finalement, on s'adresse à Jésus, comme il s'est présenté lui-même quand il a dit « Je suis votre ami, désormais. Vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes mes amis. » Et vous pouvez dire au monde entier, et vous savez quoi? Je suis ami de Jésus. Pas les fameux amis que vous avez sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, voilà, on qualifie certaines personnes par rapport à la notoriété, le nombre d'amis qu'ils peuvent avoir. Mais le véritable ami, celui qui vient quand on est dans la difficulté, celui qui est proche de nous, celui à qui on peut répandre nos cœurs et dire « Seigneur, vois ma détresse, vois ma situation, j'ai besoin que tu interviennes. » Et quand on s'approche avec cet état de cœur, il y a quand même une différence qui est notoire. Alors merci Seigneur, parce que oui, il est vivant, la mort n'a pu le retenir. Au travers de ce passage que nous avons lu, ici l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus est mort, c'est une réalité. Et au travers de cette mort, il y a ce symbole de l'Ancien Testament, où pour s'approcher de Dieu, il fallait impérativement qu'il y ait un sacrifice. D'ailleurs, dès qu'il y a eu la désobéissance dans le jardin, pour réparer tout ça, le Seigneur a recouvert Adam et Ève de peaux d'animaux. Et on s'aperçoit également que dans ces peaux que le Seigneur a données, s'il y a eu la peau des animaux, ça sous-entend qu'il y a eu la mort de ces animaux. Donc déjà au préalable, sacrifice. Et à ce moment-là, pour s'approcher de Dieu, il fallait sacrifier quelque chose. Et comme nous sommes tellement, finalement, limités dans ce que l'on peut apporter au Seigneur, le Seigneur lui-même, et là on découvre l'amour de Dieu pour nous tous. Il a dit, mais étant donné qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes, et que ce moyen pour eux les dépasse, alors je vais envoyer ce que j'ai de plus cher, c'est-à-dire mon Fils. Jésus, loin, l'envoyé de Dieu, venir ici-bas sur cette terre. Finalement, faire comme eux, comme ces créatures-là que moi-même j'ai créées, que j'ai façonnées. Et à partir de ce moment-là, Jésus va quitter son ciel de gloire. Il va venir sur cette terre, il va marcher sans péché, parce qu'il fallait que le sacrifice soit sans défaut et sans tâche. Et Jésus qui est l'agneau parfait, il y a ce symbolisme qu'il a. Alors l'apôtre Paul ici, il est en train de dire que Jésus est mort, il fallait que quelqu'un meure. Dans l'épître aux Hébreux, il est dit que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Il faut que quelqu'un paye. Et il va plus loin, il dit, il a été enseveli. Et ça c'est le cœur de l'évangile. Il est mort. Ce n'était pas une demi-mort, ce n'était pas simplement un endormissement. Mais il a souffert ces choses-là. Et ce matin, alors qu'on a partagé le pain et le vin, nous nous sommes rappelés des souffrances de Christ. Si quelqu'un a pris le pain et le vin sans se rappeler de tout cela, ben on est passé à côté de quelque chose d'important. Nous souvenir du sacrifice de Jésus, c'est le cœur de l'Évangile. Oui, il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité. Amen. Alléluia. Comme il l'avait annoncé. Et on l'a lu ensemble, il est apparu à plusieurs personnes. Ça a été un bouleversement. Notre terre entière, elle a été bouleversée. À tel point qu'à partir de ce moment-là, il y a même un repère qui est mondial. On dit, avant Jésus-Christ, pour mettre une date, et après Jésus-Christ. Quelque chose d'extraordinaire. Donc, il l'avait annoncé. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, il a dit aux disciples, « Il est préférable que je m'en aille. Il faut que je quitte cette terre. » Et il l'a dit plusieurs fois, « Il faut qu'on monte à Jérusalem. » Parce que là-bas, je vais souffrir, je vais aller donner ma vie sur la croix. Alors c'est sûr et certain que si on avait pu le dessiner, une bande dessinée, quand Jésus a pu lire ça, on aurait pu voir au-dessus de la tête de tous les disciples un gros point d'interrogation. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Alors qu'il fallait simplement regarder dans l'Ancien Testament, et notamment dans Ésaïe 53, où tout a été détaillé avec précision. Le psaume 22, le psaume messianique. Si un jour, vous ne savez pas trop, regardez le psaume 22, vous allez voir avec quelle précision la Bible nous parle du sacrifice de Jésus. C'est ce passage où il dit, même arraché les poils de sa barbe, il a souffert quelque chose de terrible, mais il est vivant, il est ressuscité, il a passé 40 jours avec les disciples, et puis il y a eu cette ascension. Alors, quand on parle de résurrection de Christ, et donc dans ce week-end de Pâques, on s'aperçoit que la résurrection a toujours été bafouée, minimisée, ou alors... On a du mal, certaines personnes ont du mal à croire que Jésus est vraiment ressuscité. Et j'aimerais vous apporter quelques preuves comme quoi Jésus est réellement ressuscité. Les preuves de la résurrection de Christ, on voit tout d'abord, dans un premier temps, la précaution prise à la tombe, parce qu'il y avait une précaution qui avait été là. Jean chapitre 19, verset 39 à 40. Jean 19, 39, 40. C'est Nicodème qui va s'approcher du Seigneur parce que les précautions prises à la tombe, l'enterrement a eu lieu selon les coutumes juives. On voit qu'il y a une précaution qui est là. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Alors nous, quand on lit ce passage, on se dit, bon voilà, Nicodème, il vient, vous rappelez, c'est lui qui va recevoir cette révélation. Donc, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, il a cette question dans son cœur. Il veut savoir, mais comment naître de Dieu? Comment naître d'en haut? Le Seigneur va lui révéler. Le vent souffle où il veut. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Et puis, il y a ce fameux, donc dans ce chapitre 3 de Jean, il y a ce fameux verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, afin qu'il a donné son Fils unique. Là, il est en train d'annoncer finalement l'essence même de son message. Donc ce Nicodème, c'est lui-même donc, qui auparavant est allé de nuit voir Jésus, il y avait quand même comme une crainte de ce que les autres pouvaient dire, parce qu'il avait une certaine notoriété, une certaine position au niveau du peuple, et donc il est allé trouver Jésus parce qu'il y avait cette question qui était là, qui revenait sans cesse, et donc il est allé voir Jésus de nuit, et il vint, on voit au travers de ce passage, qu'il est venu apporter quelque chose de tellement important. 100 livres de myrrhe et d'aloès. Alors nous, quand on lit 100 livres, on n'a pas trop l'image. Et quand on le convertit, en fait, ça fait 30 kilos. 30 kilos de myrrhe et d'aloès. Et en fait, c'était la norme pour quelqu'un que c'était utilisé pour envelopper les bandes. On l'a vu, ça fait beaucoup d'épices quand même. 30 kilos, ça fait pas mal. Mais c'était la norme pour les grands leaders qui mouraient. Plus tard, l'histoire nous dira qu'il y a des leaders. Des leaders où ils ont apporté même davantage que ça. Mais c'était la norme. Alors on voit ici les précautions qui ont été prises. Jésus a été entouré de bandelettes et donc mis dans ce tombeau. On voit également les preuves de sa résurrection, que le corps, il fut déposé dans un sépulcre neuf. Et ça aussi, ça a été prophétisé des siècles auparavant. Pour que tout concorde, si ça avait été que du hasard, eh bien, il aurait fallu que quand même les choses s'emboîtent telles que la parole l'avait dite. Hein. Alors évidemment qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, parce qu'il fallait que ce soit un sépulcre neuf et taillé dans le roc. Souvent, on a cette image de, finalement, le tombeau, le sépulcre, avec une grande entrée. En fait, ça ne faisait pas plus d'un mètre. Si vous lisez minutieusement dans la parole, certains, pour pouvoir y rentrer, il fallait qu'ils se baissent. Parce qu'en fait, c'était taillé dans la pierre. On voit, au travers donc, des précautions qui ont été prises, elles ont été prises en toute conscience et selon les rites et les coutumes juives de l'époque. Ensuite, il y a eu une grande pierre qui fut roulée à l'entrée du sépulcre. Une grande pierre, on met Jésus, la pierre a été roulée. Mais Marc nous dit, par exemple, que c'était une pierre qui était très grande. Donc, petit détail, Marc, chapitre 16, verset 4, nous dit que c'était une très grande pierre. Alors certains qui ont évidemment plus de capacité que moi, certains scientifiques, ont essayé de calculer combien ça pouvait peser à peu près, cette pierre, selon certaines dimensions et les coutumes de l'époque. Alors ils ont évalué le poids à une tonne et demie. Encore une fois, c'est important ça, parce que cette même pierre, elle va être roulée. Et si, comme on a pu le dire, certains sont venus pour voler le corps de Christ, ben il aurait fallu quand même un peu de matériel pour essayer de faire bouger cette pierre. Donc, une grande pierre fut roulée, le poids une tonne et demie, et puis ça ne s'arrête pas là. Une garde, une élite spéciale, spécialement entraînée, fut placée devant le sépulcre. Cette élite, cette garde, s'appelle le custodias. Et ce custodias, c'était une unité de sécurité composée de 16 hommes. Pourquoi ? Parce qu'il y en avait 4 qui veillaient sur cette direction-là du tombeau, 4 de cette direction, 4 là et 4 là. Donc c'était vraiment très difficile pour venir voler le corps. Encore une fois, l'histoire nous rappelle que ce sont des choses tellement importantes. Et ils étaient entraînés pour garder 2 mètres carrés. 2 mètres carrés, ça ne fait pas beaucoup. 2 mètres carrés, ça ne fait pas beaucoup de distance. Et eux, ils étaient spécialement entraînés pour garder ces 2 mètres carrés. Cette garde d'élite, ces hommes étaient capables de résister, l'histoire nous dit, ils étaient capables de résister à un bataillon entier. Et s'il y avait des conséquences, si l'un de ces gardes s'endormait, ou alors s'il faillait dans sa fonction, les chefs les battaient, puis ils étaient brûlés vifs. Donc, pourquoi je dis ça? Pour simplement vous expliquer qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Parce qu'il va y avoir, à un moment donné, essayer de réduire en disant « Mais Jésus n'est pas mort. son corps a été volé. On voit ici que ça aurait été vraiment difficile. Et puis, la dernière chose au niveau des précautions qui ont été prises à ce moment-là, c'est qu'une fois que la pierre a été roulée, il y a eu un saut. Aujourd'hui, hein, c'est exactement pareil pour les personnes qui décèdent. Il y a un saut hein, de la République. Eh oui, sur... j'ai plus le cercueil. Voilà, j'avais plus le mot. Surtout en ce moment, hein, chez nous, en ce moment, voilà. Donc, le cercueil, il y a un sceau, et c'était également comme ça que ça fonctionnait à cette époque-là. Regardez ce qu'il est dit dans Matthieu 27, verset 66. Matthieu 27, verset 66. Un sceau scellait le sépulcre afin que personne ne puisse toucher à ça. Matthieu 27, 66. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Quand ce mot-là est là, si vous allez dans l'original, c'est le custodias, hein, le fameux. Après avoir scellé la pierre, la garde seule était autorisée à la poser. Après avoir vérifié et authentifié qu'il y avait la bonne personne dans le sépulcre, évidemment. Et une fois mise en place, les gardes, la vie des gardes, à partir de ce moment-là, quand la pierre était roulée, leur vie était en jeu. Alors je ne vous dis pas le sérieux hein, de ces gardes-là. Et à l'époque, comme on le voit, et encore aujourd'hui, bien des théories affirment que la résurrection n'était qu'une fraude. Mais on voit que pour nous, les croyants, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On le voit, par exemple, par rapport à la résurrection elle-même. Et on lit dans Matthieu 28, hein, on tourne quelques pages, Matthieu 28, les premiers versets. Matthieu 28, verset 1er. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes, la fameuse unité d'élite, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Alors ici, donc c'est l'évangéliste Matthieu qui est en train de nous relater qu'il y a eu des phénomènes extraordinaires, bouleversants. C'est-à-dire, la terre a tremblé. À ce moment-là, si on va dans les livres d'histoire, à cette période-là, la terre, elle a tremblé, plusieurs fois même. Mais là, elle a tremblé de manière différente. Et vous regarderez dans la Bible. À chaque fois qu'il y a eu un tremblement de terre dans la Bible, c'est quand Dieu était vraiment en colère. Et la colère de Dieu, vous savez où elle s'est abattue ? Sur Jésus. Des fois, on aurait tendance à l'oublier ça aussi. Parce qu'en fait, il portait nos péchés. Et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Tremblement de terre, cet ange est apparu, les gardes, ils vont devenir comme morts. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose de spécial qui se passe pour que ces gardes, ces hommes, hein, c'est des hommes avec un grand H. Mais ils sont là, ils tremblent, ils deviennent comme morts. Et il y a eu ce tremblement de terre. Ensuite, l'ange, il va rouler la pierre et il va s'asseoir dessus. L'ange n'a pas roulé la pierre pour que Jésus puisse sortir. Des fois, on peut croire cela. Hein. Il a roulé la pierre pour que Jésus sorte. Non, c'était simplement pour faire voir que elle a été roulée pour que nous puissions voir que finalement, le tombeau est vide et qu'il est vivant, il est ressuscité. Alléluia, que Dieu soit béni. On a lu au début... De ce passage de Matthieu 28, il dit qu'il va y avoir deux femmes qui vont aller pour embaumer, comme c'était l'habitude, donc après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Alors, c'est une blague, hein, mais juste vous raconter, vous savez pourquoi le Seigneur a choisi deux femmes pour qu'elles puissent découvrir que le tombeau était vide? Pour que la nouvelle se répande plus vite. Voilà, c'était juste pour détendre. Les sœurs, sachez qu'on vous aime, qu'il n'y a pas de, problème. Hein. Voilà. Non, en fait, cette semaine, quand je préparais le message, je pensais à ça. Je me suis dit, ça aurait été dommage de ne pas la raconter. Hein. Comme ça, vous aurez l'occasion de pouvoir la raconter. Il y en a plein d'autres. Hein. On appelle ça les blagues de pasteur. Alors, on revient à notre texte et on s'aperçoit que, alors, donc la pierre a été roulée. Finalement, on peut se poser cette question. Quelle est l'implication pour nous? Quelle est l'implication pour chacun d'entre nous? Mais tout simplement, quand Jésus est remonté au ciel, et on peut se poser cette question, que fait-il aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Il est vivant, on l'a vu. Quelles sont ses activités? Et puis, ça change quoi dans ma vie? Alors que je suis, tête baissée, dans mes difficultés, qu'est-ce que cela peut changer dans ma vie? Première des choses, ce que ça change, c'est que Jésus sauve tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Et ça, c'est la conversion, finalement. Avant de connaître le Seigneur, nous tous qui sommes là ce matin, nous marchions dans une direction. Puis le Seigneur, par des circonstances qui sont toutes extraordinaires, la conversion, c'est pas quelque chose de banal. Le Seigneur nous a arrêtés, un peu comme l'homme de Dieu, hein, en Actes chapitre 9. On a été arrêtés de manière différente pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur s'est révélé à nous. Et alors, oui, le Seigneur Jésus, il sauve parfaitement. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est sa volonté. Jean, chapitre 6, verset 40. C'est la volonté de notre Seigneur. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Promesse, et je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia. Amen. Je le dis régulièrement. Seul Dieu sait qui, au milieu de nous, ce matin, va ressusciter pour le dernier jour. Et vous savez quoi? On l'a vu ensemble, c'est la volonté de Dieu. C'est de sauver. Des fois, on attend qu'il se passe des choses extraordinaires dans nos vies, un bouleversement. Des fois, on attend, et c'est un peu mon cas, de toucher le fond pour crier au Seigneur. Vous savez que le plus grand de tous les miracles, donc c'est cette fameuse conversion, c'est se tourner vers le Seigneur, ça peut se passer ce matin, là, sur ta chaise, en disant, mais je reconnais que, finalement, je suis perdu. Et j'ai besoin d'un sauveur. Et ce sauveur, c'est Jésus, qui, le même, qui est ressuscité. La mort n'a pu le garder, on l'a dit plusieurs fois, et il est vivant. Et aujourd'hui, il sauve tous ceux et celles qui viennent à lui. Que personne, ce matin, personne, ne puisse dire, mais moi j'ai trop péché pour venir au Seigneur. C'est une grâce, ce n'est pas par nos mérites, et quoi que nous ayons fait, aussi profond qu'ont été finalement nos péchés, il est capable de nous bouleverser et de nous accorder cette vie éternelle comme récompense. Je le ressusciterai au dernier jour. Finalement, ça c'était l'espérance dans nos cœurs. Essayer d'expliquer l'espérance, on peut le faire, hein, avec les mots sont tellement faibles. Mais l'espérance, c'est qu'il y a dans notre cœur, c'est quelque chose à vivre dans un monde tellement bouleversé, tellement ballotté. On a besoin de certitude dans nos cœurs. Et j'ai la certitude, la plupart ici au milieu de nous, ont la certitude que si on ferme les yeux ici-bas, la seconde qui vient, on est dans la présence de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est possible pour toi. On a vu dans ce chapitre à ce verset de Jean, chapitre 6, verset 40, que c'est la volonté de Dieu. Finalement, c'est le dessein de toute éternité. Dieu n'a jamais été pris de court. Quand l'homme et la femme ont péché, ont désobéi, ont manqué le but, il avait déjà un plan établi pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est la volonté de Dieu. Des fois, certains cherchent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de te tourner, toi qui entends ce matin, vers le Seigneur. Dire finalement, oui, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de la grâce de mon Seigneur. Il est dit également, car quiconque voit le Fils, et dans ce quiconque, on peut supprimer le quiconque et mettre notre nom, notre prénom. Oui, moi, je peux venir auprès du Seigneur. C'est un appel universel. Pas de distinction de race, de sexe, de notoriété même. Tous ceux et celles qui se reconnaissent pécheurs peuvent s'approcher du Seigneur. Cet appel, il est universel. Et c'est là où on comprend que bien plus tard, dans une des épîtres, il y a dit « Maintenant, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Nous sommes tous égaux devant le Seigneur. » Certains l'ont mal traduit ou mal interprété en disant que c'était par rapport au service ou à la prédication. Mais en fait, ça se rapporte ici au salut. Nous sommes tous égaux. Dieu aime autant une femme qu'un homme. C'est ce qu'il est en train de dire. Donc, dans ce quiconque, c'est moi. Et ce matin, chacun d'entre nous, entendez l'appel du Seigneur à se tourner vers lui. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur. Celui qui voit le Fils et croit en lui. Voir signifie regarder attentivement et minutieusement. C'est-à-dire, à un moment donné, posez-vous les bonnes questions. Dites-vous, et si c'était vrai? Est-ce que je ne passe pas à côté de quelque chose de grandiose? Et puis finalement, et si ce n'était pas vrai? Qu'est-ce qu'on aurait à perdre? D'avoir vécu une vie équilibrée? Une vie où on ne se laisse pas asservir par certaines choses qui sont nocives pour notre corps? Mais nous, on sait, on a cette certitude. Tout à l'heure, je parlais d'espérance. Que ces choses sont vraies, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient nous les dire et souffler à nos oreilles que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est une position qui est tellement élevée. Alléluia. Regardez attentivement quelque chose afin de comprendre et de connaître le plan de Dieu et ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. C'est une promesse de vie éternelle. On voit que le résultat est immédiat. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que peut-être quelqu'un ce matin est rentré perdu. Il peut sortir sauvé. Un résultat qui est immédiat. On a voulu nous enseigner en disant, tu sais, tu devras peut-être bien te comporter, faire des bonnes œuvres, afin d'incliner un peu le cœur de Dieu, pour qu'il te soit favorable. C'est faux. Personne, par ses œuvres, ne peut mériter quoi que ce soit. C'est simplement une grâce. Et la grâce, c'est une faveur, c'est un cadeau que le Seigneur nous donne. Et ce cadeau, quand on nous donne un cadeau, on n'a simplement qu'à l'accepter. Aussi simplement que cela. Promesse, résultat immédiat et la résurrection au dernier jour. Alléluia. Jésus attend aujourd'hui patiemment que les hommes, les femmes reconnaissent le péché. Dieu use de patience, mais il y aura un terme. Et on ne sait pas quand est-ce que cela va arriver. Aujourd'hui, quand même, on s'aperçoit que tout tente à aller dans une même direction comme dans un entonnoir. Ça commence à se resserrer. Quand on lit la Bible, le Seigneur nous a dit qu'il va y avoir des événements qui vont se passer avant sa venue. On en voit certains. Certaines prophéties s'accomplissent sous nos yeux. Et je ne dis pas ça pour mettre une frayeur, une peur de quoi que ce soit. On n'en est pas là. Mais de vraiment réaliser que ces choses, elles sont réelles, elles sont concrètes. Et le Seigneur, il veut se glorifier au travers de chacun d'entre nous. Finalement, ça c'est le but de l'Église, d'annoncer que Jésus est capable de sauver encore aujourd'hui. Alléluia. D'ailleurs, dimanche dernier, on était dans la joie, dimanche dernier après-midi, parce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a compris cette chose-là. Et puis à un moment donné, il a dit, mais oui, je reconnais que je suis pécheur et je veux m'engager avec le Seigneur. Il est passé par les eaux du baptême. Et il y a de la joie, et il y avait de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Alors que fait Jésus actuellement? Jésus sauve tous ceux et celles qui se tournent vers lui. Que fait encore Jésus ? Jésus agit, une fois qu'on a donné notre vie au Seigneur, il agit envers nous comme notre avocat. À un moment donné dans ma vie, j'ai eu besoin d'un avocat. C'est précieux quand il vient pour nous défendre. Défendre notre cause. Et Jésus, c'est ce qu'il est en train de faire, en fait. Et c'est notre avocat, c'est ce que nous dit 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez plus. » Il dit, mais il se reconnaissait lui aussi, hein, l'apôtre Jean, il dit, mais et si quelqu'un a péché, ben, ça va nous arriver. Hein. « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le juste. » C'est tellement important, ce verset. Parce que souvent, ça peut nous arriver de douter. L'ennemi, la première des choses qu'il va faire, hein, le diable, l'adversaire, il va essayer de mettre le doute dans notre cœur. En disant, et toi, tu te dis enfant de Dieu, regarde ta vie. En essayant de finalement nous rabaisser. Et c'est là, et c'est concrètement ce qui se passe dans les lieux célestes. Jésus se lève comme un avocat et qui dit, mais cette personne, elle m'appartient désormais. Elle est à moi. Et donc, il vient et il défend notre cause. Alléluia. J'espère que vous avez déjà expérimenté, quand on était dans la culpabilité, que Jésus s'est levé en disant non. Ce sont des fausses accusations. Parce que cette personne, elle m'appartient. Alors, on peut avoir chuté, hein, ici, ce verset nous le dit. On n'est pas à l'abri de tout ça. Hein. On est des êtres tellement perfectibles. On tend vers cette perfection. On peut chuter. Il dit, mais si on pêche, nous avons un avocat auprès du Père, un défenseur. Il se charge quotidiennement de plaider pour nous. Alléluia. Que fait encore Jésus ? Aujourd'hui, Jésus prend soin de son Église. Amen. Matthieu, chapitre 16, verset 18, un verset que l'on connaît bien. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Amen. Regardez dans la Bible, quand vous voyez le E en majuscule, c'est l'Église universelle. Et le E en minuscule, c'est l'Église locale. Donc, ici, on voit que c'est Jésus qui va prendre soin. Il dit, la porte du séjour des morts. L'ennemi, ce qu'il essaie, dès la naissance de l'Église, il a toujours essayé de déstabiliser l'Église. Toutes les églises où je suis passé, elles ont toutes connu le même processus. À un moment donné, tout semble aller bien. Puis l'ennemi va essayer de mettre la zizanie. Il faut savoir que zizanie et ivré, c'est le même nom. C'est la même définition, ivré, zizanie. Au milieu de l'église, pour essayer de la déstabiliser. Et c'est encore aujourd'hui comme cela qu'il procède. Mais le Seigneur Jésus, lui, il prend soin. D'ailleurs, même avant la naissance, c'était la promesse. Hein, avant la naissance, ici, dans Matthieu 16, il dit, moi, je te dis que tu es Pierre. Parce que Pierre va faire une déclaration extraordinaire. Ce qu'on a chanté tout à l'heure dans le quatrième chant. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il répondait à la question que Jésus avait posée au préalable. Qui dit-on que je suis ? Et aujourd'hui, pour que le Seigneur prenne soin de l'Église, il faut que l'Église déclare « Oui, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » Alors, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. Vous savez quoi ? L'Église, elle tiendra debout. Amen. Et plus que jamais, pu l'expérimenter à maintes reprises. Alléluia. Donc, non seulement Jésus prend soin de l'Église, et puis ensuite, qu'est-ce que ça change pour moi ? C'est que Jésus nous donne le Saint-Esprit. Jean, chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux, ce que je vous disais tout à l'heure, et que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Quel privilège nous avons. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la présence de Dieu. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, l'Esprit de Dieu saisissait une personne, il était saisi par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'habitait pas au-dedans. Et par son sacrifice à la croix du calvaire, Jésus a ouvert cette voie. Désormais, chaque croyant, celui qui croit dans le Seigneur Jésus-Christ, il est rempli du Saint-Esprit. Et le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est d'être plongé, immergé dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et dans une église comme la nôtre, pentecôtiste, on doit pouvoir exercer ces choses-là. Le parler en langue. Si quelqu'un, ce matin, n'est pas baptisé du Saint-Esprit, recherchez-le. C'est un don, il vous le donne. C'est tellement extraordinaire de vivre rempli, immergé dans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, son utilité, c'est de nous conduire vers la sainteté. Ce n'est pas simplement pour nous faire trembler dans une réunion, on a senti la présence de Dieu. Des fois, ça peut arriver, bien sûr. Mais ce n'est pas ça. L'objectif important, c'est qu'il veut nous conduire dans la sainteté. On tend vers cette sainteté. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on est rempli du Saint-Esprit, il y a une opposition à la chair. Ce qui est naturel en chacun d'entre nous, vous avez vite remarqué que notre cœur est vite enclin vers le mal. On n'a qu'à voir nos enfants. Il n'y a personne, s'il n'y a aucun parent ce matin, qui élève son enfant en disant « Il faut que tu mentes, il faut que tu voles. » Personne. Et pourtant, ces choses-là sont déjà dans le cœur des enfants. C'est cette nature qui a besoin d'être changée et bouleversée par l'amour de Dieu. Et ici, il nous en donne quand même voilà, un objectif principal. Il dit « Marcher selon l'Esprit ». Ici, ce n'est pas une option. Une priorité pour nous tous. On doit marcher selon l'Esprit. Un prochain dimanche, on parlera de marcher selon l'Esprit. Qu'est-ce que cela représente pour nous tous? Et si on fait cela, alors si on marche selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Quand on est plein de l'Esprit, ben la chair a la tendance à se vider. C'est extraordinaire. Alors que le Seigneur nous aide. Merci Seigneur pour son utilité, il va nous conduire vers la sainteté. Le Saint-Esprit nous aide à quoi? À témoigner. Actes chapitre 1, verset 8. Promesse ici du Saint-Esprit encore une fois. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Les conséquences, vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem. Ça sous-entend le lieu où tu as été rempli, le lieu proche. Là où tu habites, donc la Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il témoigne. Parce que le Seigneur met ce fardeau dans les cœurs. Et ensuite, pour l'Église, nous recevons des dons spirituels. Mais je n'ai pas voulu ici développer les dons spirituels, peut-être également une prochaine fois, parce que c'était normalement l'objet du partage d'hier avec les jeunes que je n'ai pas pu assurer pour une raison, il y a eu un décès encore dans la famille, il a fallu que je me déplace. Mais voilà, on est en train de voir avec les jeunes les dons spirituels, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ne sont pas. Et donc on retrouve ça dans Éphésiens 4, Romains 12, 1 Corinthiens 12, et 13 et 14 et 1 Pierre 4, les dons spirituels. Voilà ce que le Seigneur fait pour nous tous. Qu'est-ce qu'il nous donne encore? Qu'est-ce que fait le Seigneur alors qu'il est ressuscité? Alors Jésus nous secourt dans tous nos besoins. Et les besoins, ils sont nombreux. Hébreux chapitre 4, versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Mais au contraire, il a été tenté comme nous, identification, en toute chose. Petit détail d'une importance monumentale, sans commettre de péché. Et c'est là le verset 16, il dit, approchons-nous donc, avec quoi? Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Besoins est au pluriel, parce qu'ils sont nombreux. Il y a des besoins que nous avons. Et le Seigneur, donc, il vient nous secourir dans tous nos besoins. Alléluia. D'ailleurs, n'oubliez jamais qu'il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Le Seigneur, je connais quelqu'un, elle est née voilà, avec un handicap, donc une femme, elle est née, elle pouvait pas procréer, elle est née sans la matrice. Et elle a fait cette expérience avec le Seigneur, elle a fait cette prière, « Seigneur, j'aimerais avoir des enfants, au moins un enfant, Seigneur, une prière toute simple. » Le Seigneur lui a accordé aujourd'hui 2 enfants. Elle est à l'église, elle sert le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur est capable de créer à partir de rien. Chose qui n'existe pas, pas de matrice. La puissance du Seigneur. Alors je vous dis pas le corps médical. Et on parlait tout à l'heure de ce point d'interrogation. Et je ne comprends pas. Pourtant, c'est bien clair. C'est ça un miracle. Un miracle, c'est prouvé par la médecine. Et en fait, ouais, il y avait un problème. Mais il n'y est plus. C'est ça le miracle. On en a vécu tant d'autres. En fait, c'est ce que fait le Seigneur. Dans tous nos besoins, il est là pour nous secourir. Celui qui a besoin de secours ce matin, approche-toi du Seigneur, crie au Seigneur. Aie confiance, aie foi dans ce Dieu vivant et vrai, et il va se manifester. Alléluia. Et puis, je termine par là. Que fait Jésus pour nous aujourd'hui, alors qu'il est ressuscité? Il intercède pour nous tous. Dans l'église, ici, il y a un groupe d'intercession qui est ouvert, hein, si vous voulez venir. Hein, voilà, hein. Responsable, c'est Noé là, ils se réunissent, ils intercèdent, ils prient. Et des fois, je vois, parce que nous, on est là, et eux, ils sont là en train d'intercéder, il y a de la ferveur. On intercède. Imaginez-vous avec quelle ferveur le Seigneur Jésus intercède pour vous, pour nous, pour les membres de vos familles, pour les perdus de l'humanité tout entière. Parce que nous, on les aime de l'amour de Christ. Mais l'amour même de Christ, comment il intercède? Intercéder, c'est Dieu est là, le besoin est là, et puis on fait le lien. Tout simplement. C'est ça, intercéder. Hein. Que le Seigneur nous aide à intercéder pour ce monde perdu. Jésus, actuellement, il intercède pour chacun d'entre nous. C'est ce que nous dit Romains, dernier verset. Romains 8, 34. Qui le condamnera? Question. Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. La droite de Dieu, c'est le symbole de l'autorité. L'autorité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Vous savez que Jésus est en train de prier, d'intercéder pour vous, pour dire qu'il ne défaille pas. Qu'il aille jusqu'au bout, qu'il tienne ferme, qu'il tienne bon. C'est ça la prière du Seigneur. Hein. Et puis, des fois, il y a tellement de choses dans cette course dans laquelle nous sommes engagés, où l'ennemi vient là pour essayer de nous distraire du but final. Ce but, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée en vainqueur. Dans ce mois dernier, tout à l'heure, je vous disais qu'il y a eu encore un décès dans la famille. Et donc, ça fait le quatrième en un mois. Alors, il a fallu que je fasse des allers-retours pour aller dans la famille. Mais je vous promets. Et là, il n'y a pas d'artifice quand ces choses-là, elles arrivent. Que quand quelqu'un ferme les yeux ici-bas et qu'il a terminé sa course en vainqueur, il y a une dualité de sentiments. Le déchirement, hier on était dans la tristesse hein, de ne plus voir ma tante, voilà, on ne la verra plus ici-bas, mais une dualité de sentiments et en même temps une joie, en disant « Seigneur, elle est maintenant auprès de toi. » 72 ans, elle est partie en un mois. Et pour en avoir discuté avec son beau-fils, il me disait « Mais dans cette chambre, il y avait une paix, il y avait la présence du Seigneur. » Il n'y a que le Seigneur qui est capable de faire ces choses-là. Alors, que chacun d'entre nous, nous puissions nous fixer comme objectif de terminer cette course en vainqueur. Alors, que fait aujourd'hui Jésus pour nous? Il fait toutes ces choses qu'on a pu développer ensemble. Et pour conclure, je vous dis que oui, Jésus est vivant et ça change vraiment, vraiment tout. Alléluia. Amen. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour qui tu es. Seigneur, oui, tu es vivant. J'ai pu l'expérimenter personnellement, mes frères et sœurs aussi. Seigneur, je veux te prier pour celui ou celle qui ne te connaît pas. Seigneur, qui a le cœur peut-être fermé, Seigneur. Mais moi, je sais que, Seigneur mon Dieu, les cœurs les plus durs fondent devant ton amour. Seigneur, alors déverse encore ton amour sur tous ceux et celles qui ont besoin d'être sauvés, Seigneur mon Dieu, en ce moment. Seigneur, pour nous qui avons entendu cela, ça nous encourage de savoir qu'il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Nous sommes dans ce week-end de Pâques. Oui, tu es ressuscité, c'est notre seul message. C'est le message que nous voulons apporter à ce monde, que tu es vivant. Et ça change, ça bouleverse tout, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons continuer à te servir, finir, Seigneur mon Dieu, vraiment, cette course en vainqueur, afin de recevoir, comme le dit ta parole, cette couronne incorruptible. Seigneur, aide-nous à tenir, aide mes frères et sœurs dans les difficultés qui sont les leurs. Seigneur, sois avec eux. Seigneur, tu es là, tu es présent dans nos combats, tu es présent, Seigneur, pour nous secourir. Vois les prières des cœurs, vois les blessures des cœurs, vois les situations, Seigneur. Il n'y en a aucune qui te dépasse. Tu es le grand Dieu de l'univers. Et nous voulons rester dans une confiance la plus totale avec toi, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci, ô notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni.